Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Jésus leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison vous entrerez, dites d'abord, paix cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant, buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison dans toute ville où vous entrerez. Et vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades. Dites aux habitants, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi.
Sa sublime grâce dans toutes les âmes, sur toute la surface de la terre, ouverte par le désir de la grâce à la sainteté, vient y déposer le dépôt divin des sources d'eau jaillissant pour qu'il puisse voir dès cette terre s'ouvrir au-dedans d'eux les portes de la Jérusalem d'en haut.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Alléluia, Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Louange à toi,
Alléluia.
Totalement de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Le temps est là, c'est vrai, l'heure est arrivée. C'est la première fois qu'on ouvre ensemble la 12e année du 3e millénaire. Et on s'appuie sur le Saint-Père, on s'appuie très profondément sur le cœur de Jésus présent dans le monde. Le cœur de Jésus présent dans le monde, c'est le Saint-Père. Et le Saint-Père,
C'est très bien que depuis des millénaires, on fera tout pour l'écarter, avant que l'unité ne se fasse, pour que l'unité ne se fasse pas, pour que les premiers gestes, peut-être que l'unité même, eux-mêmes, ne puissent pas se faire. Mais le Saint-Père, le cœur de Jésus sur la terre, avance tranquillement, les chiens aboient, la caravane passe, et nous aussi. Le Saint-Père inexorablement passe la mer Rouge à pied sec. Inexorablement. À la grande déception des Égyptiens. Extraordinaire de voir comment ils ont. Les roues de leurs chars s'enfoncent dans la boue. Les sanglis s'enfoncent. Sur la terre solide d'Israël. Cette terre-là est un marécage et un piège pour eux. Et les eaux vont les submerger. Et le Saint-Père, lui, ne s'occupe pas de tout ça. Il sait très bien que c'est Jésus qui avance, qui s'enfonce dans l'âme. C'est Jésus qui aime à travers, avec lui, à travers ce corps mystique vivant, lumineux, intérieur, caché, substantiellement petit, substantiellement délicat, avec une délicatesse infinie d'amour, pénètre et vient s'enfoncer dans cette attraction profonde. De tous les hommes vers la paix. On dit toujours, vous savez, que Dieu a envoyé son fils. Hein? Ouais. Le Père, le Fils. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Saint-Esprit est envoyé. Dieu est envoyé, curieux, hein? Dieu est envoyé. C'est joli d'ailleurs. Dieu est envoyé. C'est joli ça. Dieu c'est comme une lettre. Hein? J'envoie une lettre. C'est un envoyé. Dieu est envoyé. Le Père, le Fils est envoyé, Jésus. Dans la Sainte Écriture, on dit mission. Dans la messe, on dit missa est. Il est envoyé. Il était, ça y est. Chaque messe, le cœur de Jésus est envoyé dans le fond de chaque homme. Et la lettre, c'est nous. L'enveloppe, le papier, l'écriture. Mais c'est Jésus qui est envoyé. C'est une mission invisible. Une mission invisible, on appelle ça la mission invisible. Les missions invisibles des personnes divines. Dans notre âme, dans l'âme, je veux dire, de tous les hommes, dans le fond, dans le fond, dans le fond, dans le fond primordial, là où ils sont totalement eux-mêmes, totalement assoiffés de Dieu. Il y a des missions invisibles des personnes divines. C'est formidable. Les personnes divines, et comme dans le fond des personnes divines avec le Saint-Père. Le Père reçoit cette accueil, ouvre et laisse pénétrer cette mission invisible de la personne du Fils dans sa propre personne de Père. Ils sont confondus tous les deux et il émane de là une deuxième mission invisible, la mission du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est envoyé du fond de l'âme. Cette mission invisible des personnes divines fait, si je puis dire, la mission, la vie, la préoccupation, la fécondité du Saint-Père, de Jésus sur la terre. Et c'est Cette année, on accompagne le Saint-Père. Cette année 2012, c'est vraiment l'année où, par excellence, où nous sommes identifiés au Saint-Père. Totalement identifiés à lui. Il faut qu'il y ait l'indulgence plénière du monde. Et il faut qu'il y ait la disparition de toutes les conséquences de tout ce qui n'est pas, j'allais dire, la paix, de tout ce qui n'est pas pacifique, de tout ce qui n'est pas en nous. C'est un mot pacificateur. Et bon, alors, le fait que le Saint-Père ait engagé cette course, voyez, vers le cœur de Marie, cette course du cœur de Jésus sur la terre dans le cœur immaculé de Marie, dans le cœur douloureux immaculé de Marie, dans le dépôt profond du fruit de tous les sacrements déposés dans le tabernacle du Père, à l'intérieur de tous les hommes. Il sait très bien que cette mission-là, cette mission de cette année, cette mission double, cette mission de la vie, des personnes divines envoyées, il sait que c'est ça qui, inexorablement, va aboutir, et que c'est l'attente de bien des années. On le disait, je crois, il me semble, à la messe de ce matin, c'est que la fondation de l'Empire pontifical des Grecs, c'est en 800 après, avant Jésus-Christ, et puis, voyez, 800 ans après Jésus-Christ, Saint-Cyril et sa méthode. Curieux, hein, que tout est suspendu à cette fondation, celle qui est, c'est, j'ai pas besoin de vous répéter ce que nous avons dit ce matin. On comprend très bien que tout est suspendu. L'Immaculé a dit, voilà, les peuples slaves. Le Saint-Père, je me rappelle, de vénérable mémoire, pour faire la consécration de la Russie, il a dit, voilà, je consacre dans les guerres des Maries les peuples slaves. Mais il n'a pas dit la Russie. Hein. Il savait très bien que ce qui est demandé au Saint-Père, ce que le Saint-Père sait aujourd'hui qu'il doit faire, c'est que l'Église, les successeurs des apôtres, que lui et les évêques du monde de la Russie se comblent de bonheur de pouvoir rentrer ensemble dans le cœur de Marie, dans la consécration à cette mission invisible du Saint-Esprit, dans le cœur marial de toute l'Église. Ah, la révélation de Fatima. Oui. La révélation de Fatima, ce n'est qu'une apparition. Derrière l'apparition, il y a la confirmation de la mission du Saint-Père dans le monde. C'est comme Lourdes, c'est une apparition qui est une confirmation de la prise d'autorité du Saint-Père dans le monde pour ouvrir toutes les fécondités d'Immaculée Conception dans le monde d'aujourd'hui. Pas l'apparition qui fait le mystère de l'Église, c'est l'Église qui fait l'apparition du Seigneur dans la terre. Inversé. N'empêche que cette année, c'est très, une année importante. C'est une année, le Saint-Père est très conscient de ça, nous aussi avec lui. Il y a une identification avec le Saint-Père. Parce que là, on va à la racine. Là, on est en train de pénétrer cette année jusqu'à la racine de la fondation du mal dans le cœur de Marie. Vous sentez ça? Oui, quand on va prier, comme des enfants, en nous, on n'a pas le cœur fier. On n'a rien à dire, on n'est pas du tout bavard. Si vous regardez bien, on ne dit rien. Pas tout le monde, c'est vrai. Parce que tout le monde n'est pas encore arrivé dans la cinquième demeure. Mais il y en a d'autres, il y en a quelques-uns qui parlent encore. Regardez quand même, c'est quand même fort. Nous ne disons rien, non, pas le cœur fier. On n'a pas d'ambition. On ne court pas derrière des merveilles qui nous dépassent. Non, nous tenons notre âme égale, silencieuse, comme l'enfant qui s'enfonce dans sa mère. Comme l'engendré, hein, en grec, en hébreu, comme l'engendré s'enfonce dans sa mère. Il s'enfonce dans sa mère pour y disparaître, il s'enfonce dans la femme pour disparaître, il s'enfonce dans l'épouse pour l'engendré devient épouse. C'est extraordinaire, non? Comme l'enfant s'enfonce dans alors l'époux fait de lui, l'épousait de l'union hypostatique de Jésus dans notre monde, comme un enfant s'effondre dans le cœur de sa mère, l'engendrant. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Oui, Seigneur, attends Israël, maintenant et à jamais, c'est l'heure d'Israël aujourd'hui. Vous avez compris, c'est l'heure de la France. C'est l'heure royale du monde. C'est l'heure de l'onction. C'est l'heure de l'autorité. C'est l'heure de la victoire. L'heure est arrivée. Je pense que ceux qui sont ici, en tout cas au moins, ne se laisseront pas surprendre. Mais se laisseront prendre par cette grâce du Saint-Père cette année. Une grâce de Marie. Cette grâce du Père. Et il faut qu'on prenne autorité. Vous voyez, quand on, il faut qu'on prenne autorité. Je veux dire par là, vous voyez, il faut qu'on ait vraiment une vie profondément simple, pacifique, très intérieure, très profondément englouti, disparu, dans cette unité du cœur du Saint-Père, de Jésus sur la terre, et du cœur de Marie au-delà du ciel de la résurrection. Ces deux conjonctions et l'au-delà de l'unité profonde des deux, nous allons en vivre tranquillement, sans aucune présomption, sans aucune prétention, sans aucune fierté, sans rien courir derrière des choses qui nous dépassent. Je tiens mon âme égale, silencieuse. Mon enfant, c'est dans le cœur de ma mère. Parce que l'amour va tout brûler. Et je suis capable, tout simplement, de décider avec elle que l'heure est arrivée. L'heure est venue. Bon, on n'a pas besoin de faire un dessin. Et cette fois-ci, eh bien, nous obéirons. Nous prendrons autorité. Nous allons déraciner les sources du mal. C'est un pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir d'enfance, c'est un pouvoir de transparence, c'est un pouvoir de délicatesse infinie. Sans aucun mouvement de notre part, le Seigneur va se servir du Saint-Père et de Marie pour faire l'unité. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est évidemment pas rien, cette fondation des peuples slaves par l'Église de Rome. Quand on a enterré les deux frères, Saint Méthode, on a célébré la liturgie en latin, en grec et en slavon. Ça serait beau, ça, c'est magnifique. Quand en mars de l'année prochaine, on va fêter à Moscou la liturgie en latin, en grec et en slavon. Jean-François, il faut travailler ça. Une petite on pourra descendre du mont Carmel avec la force de l'île prophète. Et on saura à ce moment-là que comme nous avons pu faire cela en obéissant au Saint-Père, en obéissant à Marie, en nous unissant, en l'accompagnant de l'intérieur, en prenant autorité sur tout ce qui empêche cela d'arriver tous les jours. De cette année. Si nous faisons cela, à ce moment-là, cette liturgie toute simple, dont les hommes de ce monde se moquent, va changer la face de l'univers, de la création tout entière. Nous le savons, ça. Quand on descend de la montagne des îles prophètes, de la montagne du Carmel, de la Vierge glorifiée, contemplative, transformante, on saura à ce moment-là que cette fois-ci, nous aurons autorité dans l'unité de l'unique couture sur le ciel pour ouvrir le temps. On priera bien sûr beaucoup pour, avec Maximilien Maricol, qui est le patron des temps qui s'ouvrent. C'est le pape slave qui a dit, il est slave, hein. Maximilien Maricol, c'est un catholique, cela. On aura autorité, l'Église va avoir autorité. Notre prière d'oraison, c'est ça, le pouvoir des clés de l'Église. C'est extraordinaire ce que c'est que le pouvoir du Saint-Père, de notre pouvoir lorsqu'on est assimilé totalement avec le Saint-Père jusqu'à ce que cela arrive. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Cette ouverture dans la terre des portes du ciel, cette ouverture des portes du ciel dans la terre, ça ne pouvait pas se faire. Ça ne pouvait pas se faire avant. Bon, il y a ce désir, cette volonté, cet appel de Dieu, cet appel du ciel à ce qui est cette unité apostolique, cette unité de la succession apostolique de Jésus. Cette unité, à ce moment-là, rend possible la fécondité efficace, surnaturelle, universelle sur le temps de Saint Jean de l'Apocalypse. Et là, ça, vous voyez, nous avons une illustration, et nous allons avoir sous nos yeux l'illustration du pouvoir des clés du Saint-Père, du pouvoir des clés de l'Église Immaculée, du Maria, de l'Église de l'Immaculée Conception. On va voir là, sous nos yeux, mais déjà, nous en vivons, nous savons que c'est là être entre nos mains. Tous les jours, nous allons prendre autorité pour tout ce qui empêche cela d'advenir. Et nous avançons inexorablement avec le Saint-Père. La tempête va éclater. Ça, c'est sûr. Beaucoup de moyens de locomotion seront écrasés. Beaucoup d'étagères vont tomber. Beaucoup d'ampoules vont exploser. Il faut quand même qu'on soit prévenu. Il ne restera pas grand-chose. Vaut mieux s'attacher à rien. Mais on s'attache au Saint-Père. Ça, oui. C'est sûr. Et ça peut être sûr que il va faire beaucoup de bruit. Il y aura beaucoup de casse. Alléluia. Heureusement. Mais nous, on s'en fiche parce qu'on est comme un enfant, pour ce ni grand dessein, ni merveille qui nous dépasse. Nous tenons notre âme égale et silencieuse, comme l'engendrant s'enfonçant dans sa mère. Et à cause de ça, une fois que nous sommes là, nous pouvons rentrer dans les mains de l'Église et arracher depuis leur fondation toutes les entreprises du mal. La guerre eschatologique va arriver à son terme. C'est pas moi qui le dis, vous savez, quand le pape slave est allé à Denver, aux États-Unis, c'était des JMJ. Il y a des gens qui aiment pas ça, mais bon. Et jeune et moins jeune. Jésus, Marie, Joseph, JMJ, bien sûr. Et sa père était à Denver, il y avait Bush là, vous savez, la famille Bush qui a financé les camps de concentration de Hitler. La famille Bush qui a financé ça. Il y avait Bush qui était là. Et puis il y avait ce million et demi de jeunes qui étaient là, à Denver. Et sa père, le pape Slav, a dit le pape, l'Église, les jeunes, déclare la guerre à cette culture de mort. Le pape a déclaré officiellement que la guerre eschatologique avait commencé. Et Bush, qui était la bouche de la pieuvre noire présente, a sorti quelque chose à ce moment-là. Il dit, I really don't understand what means the Pope here. Je trouve rien. Aucune espèce d'importance. Si c'était en slave, je vous traduirais. Il y a des langues que je ne traduis pas. Et c'était quand, Denver, vous rappelez la date? Puisqu'on aime bien les dates.
92,
c'était
par là, je crois.
Ouais.
86, Composté 86. Il y a eu un truc à Composté en 86. C'est le premier.
Ouais,
après, je
ne
sais plus les dates exactement.
Ah, j'y étais, hein. On m'a même pris en photo. Mais voyez, c'était quand même par là, quoi. Il y a 22 ans, quoi. C'est beau ça, que le Saint-Père a déclaré la guerre. La guerre eschatologique a commencé. Est-ce qu'il a dit quelque chose comme ça gratuitement? Non. Et il a dit, quand il est venu à Paris au moment de 96, je crois, pour le baptême de la France. Il n'est pas venu en France, le Saint-Père, pour le baptême de Clovis.
C'est la première fois qu'il est venu en France, c'est en 1980. Mais c'est parce qu'en 82, deux ans après, c'était Paris.
En 96, c'était les JMJ de Paris, en 96.
Oui, non, mais le baptême de la
France. Il est venu pour le baptême de la France.
En 1980,
au Bourget.
Moi, j'y étais.
C'était avant, ouais.
C'est le quatrième centenaire.
C'est en 1980, c'est sûr.
Parce que moi, j'étais à Paris en 1980. C'était le centenaire du baptême de la France.
C'était
pas au JMJ. Moi je parle du JMJ, moi. Où il est venu en France. Il est venu où ça? Reims, c'est ça? C'était pour le centenaire. C'était 96, 496, le baptême de la France, donc c'était pour le 16e centenaire. Qu'est-ce qu'on va compter là, voilà. Le roi de France n'a pas été baptisé en
496. C'est la clé. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Oh, France, qu'as-tu
fait? Et alors, qu'est-ce que tu en as fait?
Enfin, je sais, puis c'est là qu'il a dit officiellement.
Oui, mais qu'est-ce que tu en as fait? Quelle est ta réponse?
Pas grand-chose, quoi.
Ah, donc, il a posé une question pour rien.
Oui, c'est France, mais elle fait.
Sa père, donc, c'est lui qui a déclaré la guerre. Mais bon, nous, on est depuis ce moment-là, on le sait très bien, on se dirige comme ça, de décade en décade, vers l'accomplissement, hein, donc, de cette grande déflagration. On est déjà aux deux tiers. Dans l'Apocalypse, vous savez, c'est toujours deux tiers, un tiers, toujours important ça. Bref, on est quand même arrivé dans cette année 2012, et cette année 2012 est très très fortement liée au déracinement des sources mondiales de l'autorité des ténèbres sur l'humanité. La Russie, vous voyez, représente un petit peu cela, de même que Carthage représentait l'origine de la domination cosmique des puissances déchues de l'Olympe sur l'humanité tout entière. Et ça, c'est sûr. Et on sait très bien, si on rajoute à chaque fois 2160 ans à toutes les étapes de la vie de cette avancée quasi inexorable des puissances de l'enfer et de leurs affinités sur l'humanité, et bien on tombe sur ces grandes préparations de la Grèce catholique dans laquelle nous sommes rentrés. Et nous arrivons ici, bon, à une étape qui est quand même importante. Donc ce que je veux dire par là, vous voyez, on est quand même à un moment très important. Le Saint-Père va vers Saint-Cyril et Saint-Méthode va vers Moscou, va vers les peuples slaves. Et il faut que nous puissions prendre autorité. C'est tout à fait en notre pouvoir, c'est tout à fait parfaitement, c'est entre nos mains, je veux dire, en toute simplicité. On peut venir parcourir tous les espaces de l'humanité qui circule comme ça, de Rome à Moscou, de Moscou à la France, de la France à Rome, et de l'Église tout entière, de toutes les messes qui sont dites partout, chaque jour, 1 million de fois sur la terre, pour venir tout simplement au fond de Marie, du cœur de Marie, arracher tout ce qui empêche cette unique prière de l'Église apostolique. C'est en notre pouvoir, et nous le ferons, mais c'est vrai qu'il faut le faire gentiment, tout simplement, sans forcer, c'est pas en hurlant, hein. Nous le ferons chaque jour. Mais je crois que c'est important de faire ça chaque jour. Si vous allez à la messe tous les jours, si vous faites oraison, si vous ne faites qu'une seule fois peut-être cette prière, Père éternel, je vous offre le corps, l'Eucharistie tout entier, l'hostie, victime éternelle d'amour, le sang. Enfoncer le sang dans la paternité agréée de Dieu qui se trouve dans les profondeurs de Dieu. l'âme, la vie humaine de Jésus, embrasée des gloires de la résurrection. L'âme, séparée de son corps, à cause de la mission de l'Église, du monde d'aujourd'hui, la divinité, l'union hypostatique des sirènes, notre Seigneur Jésus-Christ, en communion avec les messes qui se disent partout aujourd'hui dans le monde, 1 million le pape, 40 000 évêques, 1 million de prêtres. Le dimanche, ça fait 2 millions à peu près, hein, de messes. Ça fait quand même 4 fois par seconde que le Verbe de Dieu s'immole sur l'autel pour arracher le monde à Lucifer et à leur attachement profond d'amour à leur péché. Et vous me dites qu'on n'a aucun pouvoir pour arracher cette autorité des puissances de ténèbres sur nos frères, sur l'ensemble, sur chacun d'entre eux et sur tous en même temps. Bien sûr que non. Nous est donné dans l'Eucharistie de pouvoir chaque jour faire cela, nous unir au Saint-Père et avec le Saint-Père de prendre autorité sur tout ce qui empêche cette unité pacifique d'amour, de lumière, de toute la succession apostolique du ciel et de la terre en un seul troupeau, un seul pasteur. Je vous ai déjà dit qu'elles étaient différentes, bien sûr, vous savez très bien qu'il y a l'église uniate ukrainienne, l'église très bien, et le filioque, le Père et le Fils, Saint-Esprit possède l'Immaculée Conception, etc., etc. Et justement, si on regarde dans le cœur du Saint-Père, parce que le cœur du Saint-Père, le Saint-Père, vous croyez quoi? Que lui c'est un obstacle, le filioque? Vous croyez qu'il n'a rien compris de Saint-Père sur la responsabilité des processions de la lumière et de l'amour, de l'aspiration à créer des personnes divines? Il n'a rien compris peut-être. Donc c'est pour lui un gros problème que les orthodoxes ne puissent pas rentrer dans la formulation du couchant de l'Immaculée Conception, ah, quand même, et du filioque, quand même. Bien sûr que si, Saint-Père il voit très bien, ça ne lui fait aucun problème, aucun obstacle. Aucun obstacle. Mais il faut enlever tous les obstacles qui sont mis de manière stupide dans le cœur des Slaves, dans le cœur des orthodoxes, dans le cœur des patriarches, dans le cœur des synodes, qui croient que nous croyons que le Saint-Esprit procède de la procession de la lumière, alors que jamais un catholique n'a cru que le Saint-Esprit procède de l'unité des personnes dans la procession de la lumière. Mais il le pense. Vous ne nous ferez pas gober ça. Mais vous inquiétez pas, donc à distance de l'intérieur, on dit, mais non, on ne le gobe pas du tout, merci beaucoup de nous le rappeler. C'est la procession d'inspiration. C'est pas la procession de la lumière. Ah bon. Ouf. Et pareil, vous voyez, pour l'Immaculée Conception, dès lors que, oui, le Saint-Esprit est envoyé. Et la lettre, cet envoi, la mission invisible du Saint-Esprit, pour qu'il perçoive, comme nous, tout petits, de rien du tout, nous avons saisi de l'intérieur ce que c'est que cette émanation d'amour à partir. Et nous avons compris ce que c'est que cette création de l'absolution parfaite et incarnée à partir de l'union hypostatique des siens et de ses yeux. Sur la croix, si nous ne l'avons compris, vous pensez bien que ces géants de la vie spirituelle que sont les orthodoxes, ils peuvent le comprendre facilement dans la mission invisible du Saint-Esprit, dans la mission invisible des personnes divines, dans leur art. Et là-dessus, nous avons autorité, nous. Il n'y a pas de raison que nous, on soit bloqués ou que eux, ils soient bloqués. On doit arracher ça. Le Père nous attire. Dans l'attraction du Père, nous allons nous engloutir ensemble et voir tout ça dans la lumière et surtout dans l'amour. Et une fois qu'on est là, on prend autorité sur tout ce qui empêche, même si on n'y comprend rien. C'est pas grave. Nous prenons autorité sur tout ce qui empêche Jésus sur la terre de faire pénétrer toute la succession apostolique de tous les temps, de tous les lieux, de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem spirituelle de la terre, de faire pénétrer dans l'unité d'un seul troupeau et d'un seul pasteur, à l'intérieur de la demeurance du Père. Parce que, je vous rappelle que là où nous prenons autorité, il y a l'envoi du Saint-Esprit dans notre âme. Et à ce moment-là, la grâce augmente. Si la grâce sanctifiante augmente en nous, c'est parce que le Saint-Esprit a été envoyé dans notre âme, dans l'oraison. Faites oraison une demi-heure par jour, trois quarts d'heure par jour. Je dis bien oraison sous le souffle du Saint-Esprit, hein, dans l'intensité de l'humilité absolue, d'obéissance délicate de Marie, dans le silence aquasé de la Jérusalem céleste dans votre terre, dans la procession de la Jérusalem céleste, dans la Jérusalem spirituelle de votre vie d'oraison. Et quand tout cela s'enfonce et se dépose dans les grandes profondeurs, les plus hautes splendeurs d'amour du Père, dans son omniprésence, que nous vivons cela, on voit bien qu'on peut prendre autorité. Et que le Saint-Esprit, à ce moment-là, augmente la présence du Saint des Saints, augmente la présence de sainteté et de la vie, de la lumière et de l'amour dans le monde entier et en nous aussi. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de cause diminuante dans la grâce sanctifiante. Et saint Thomas d'Aquin dit voilà que si vous voulez savoir s'il y a eu une mission invisible du Saint-Esprit dans votre âme, c'est très simple. Supposez que vous soyez suspendu comme ça, dans une ferveur tranquille, facile, simple, claire. Ruisselant comme ça, plus de 10 minutes. C'est qu'il y a eu une mission invisible du Saint-Esprit dans votre âme. C'est bon signe, remarquez bien. Parce que personne ne peut être sûr d'être en état de grâce. C'est la question qu'on avait posée à Jeanne d'Arc. Mais je suis sûr d'être en état de grâce. Le cochon lui avait dit ça. Non, pas à toi, Francis. Pour toi, personne n'a aucun doute. Aucun évêque.
Si Dieu lui maintient, je crois, et s'il ne dit pas que Dieu lui maintient, c'est ça. Alors il a répondu, je crois, s'il suffit que Dieu lui garde, chose comme ça, et s'il ne dit pas que Dieu lui mette.
Oh, vous avez été très bien formé, frère.
C'est ça qu'il a répondu. Hein. Je ne trompe pas. Il est cochon.
Donc, c'est parce que c'est personne ne peut être sûr qu'il est dans la grâce sanctifiante. Mais cependant, si quand vous faites oraison, vous êtes suspendu d'une manière claire, nette, précise, là, il y a la clarté, la simplicité, oh, la fraîcheur, une suspension comme ça, enfin, le Saint-Esprit comme ça vous met de l'amour sans que vous fassiez aucun mouvement pendant plus de 10 minutes. Une ferveur tranquille, pacifiante, ruisselante pendant plus de 10 minutes. Il dit plus de 10 minutes. 10 minutes au moins. Hein. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un état cataleptoïdo, somnambulique, métapsychique. Hein. Donc, 10 minutes. Et c'est qu'il y a une mission invisible. Donc la grâce sanctifiante, la sainteté, a augmenté en vous. Mais si elle a augmenté en vous, elle a augmenté dans la nature humaine tout entière, dans les 7 milliards d'êtres humains. qui sont sur la terre. La grâce sanctifiante ne peut pas augmenter en vous sans qu'il y ait une augmentation de la grâce dans tous les hommes. C'est strictement impossible. Parce que la grâce sanctifiante, elle est catholique par hypostase. Elle est universelle. C'est comme ça que si vous voulez aider les hommes, il faut avoir raison. Alors il y a une mission invisible du Saint-Esprit, une mission du Verbe de Dieu en vous. Le Verbe est envoyé, il est posé, la responsabilité à créer en vous. Oh, quelle force cet envoi! Le Père envoie son Fils, le Saint-Esprit est envoyé dans le sang. Ça c'est extraordinaire, mais le Père n'est jamais envoyé. Ah, que ça me plaît ça! Le Père n'est jamais envoyé. Combien de fois vous avez entendu ça? C'est pas la première fois, je sais, c'est pas la première fois que vous entendez. Le Père n'est pas envoyé. La première personne de la Très Sainte Trinité demeure. C'est tout le travail du Saint-Père, c'est tout le travail de l'Église Immaculée, c'est tout le travail jaunier de l'Apocalypse de notre génération et de cette année, de ces quelques mois qui viennent là, ces quelques semaines. Qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité. On ne pourra pas revenir dessus. Que de pouvoir faire en sorte que cette mission invisible du Saint-Esprit, cette mission invisible de la responsabilité de la lumière, du Verbe de Dieu, dans notre âme, puisse s'établir en nous, s'enfoncer dans le Père qui, lui, n'est jamais envoyé. Et que ces missions invisibles provoquent une création nouvelle de l'autorité royale de notre prière. Les deux mains de notre prière peuvent venir à ce moment-là dans la mission invisible du Esprit-Saint, la mission invisible du Verbe de Dieu, dans la demeurance du Père, avec le Saint-Père, avec Marie, avec l'unité de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem céleste, nous pouvons venir partout où nous voulons arracher, briser, déceler, ligaturer, lier, enchaîner, saisir et sceller dans le sang tout ce qui s'oppose à cette course du Saint-Père. Qui va durer 9 mois. En juillet. Une course, vous voyez, extraordinaire de l'Église. Donc on a... C'est la dernière étape avant l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse. Il n'y aura plus aucune autre étape. Quand même. Et il ne faut pas qu'on soit absent hein, de cette guerre eschatologique. Autorité. Il faut déraciner jusque dans les origines des temps. Il faut déraciner. Par exemple, vous voyez, on parlait des guerres séleucides. Je ne sais pas. Utilisez tout. Vous utilisez tout ce que vous avez. Avec la simplicité des enfants de Dieu. Il y en a qui vont utiliser, par exemple, Britney Houston. Je crois qu'elle s'appelait comme ça.
Britney Houston.
Oui. Non, je ne me suis pas trompé. Ah. Elle est morte quoi, il y a 3 jours, c'est ça? Cette belle voix extraordinaire. Bon. Très bien. On dit qu'il y a à peu près plus d'un milliard de personnes qui l'ont aimée, cette femme.
J'en ai bien dit.
Elle priait tous les jours. Tous les jours. est allé s'endormir. Pourquoi on lui donne du Samax, hein? C'est incompatible avec ce que vous prenez. Et donc elle est morte. Ça, c'est comme ça qu'on est venu à bout de Michael Jackson. Pareil, la même chose. Elle s'est retrouvée devant le Seigneur. Et puis elle est venue dire à Marie: je ne suis pas une diva remplie de sainteté, moi. Jésus est venu pour les pécheurs. Oui, c'est extraordinaire. Bien sûr, c'est ce qu'elle a dit. Après sa mort. Ses propres paroles, mais juste. Mais elle porte en elle tous ceux qui l'ont aimé. C'est pas rien. Nous avons autorité sur Whitney Houston, parce que désormais elle est rentrée dans l'horizon de la purification surnaturelle, de la mission invisible du Verbe de Dieu dans son âme. Elle est rentrée dans la fraîcheur, mais elle emporte avec elle tous ceux qui l'ont aimée. Et nous avons autorité, si nous sommes en communion avec le Saint-Père, dans l'union transformante avec elle, sur tous ceux qui l'ont aimée. Autorité directe sur eux. Comment vous expliquez ça? Prenez pareil, faites pareil pour Michael Jackson. Je suis sûr que c'est plus qu'un milliard. Et il voulait que tous les hommes appartiennent à Jésus. Hein? Il n'y a jamais eu rien de diabolique. Hein? Jamais. Pas de message, mais jamais. Pas très catholique. Mais voilà un garçon qui a été massacré par son père, qui l'a défiguré, tapé avec les pieds, écrasé la tête pendant toute son enfance. Effroyable. Et lui, il a voulu donner l'espérance et que Jésus vienne sauver tous les jeunes. Défiguré. C'est beau ce qu'il avait, sa vie. Et quand il est parti après, c'est pareil. Et il a demandé le baptême mystique, voyez. En tout cas, nous avons autorité avec eux. Nous pouvons très bien prendre autorité sur ce qu'ils ont aimé et sur ceux qui les ont aimés. Dès lors que nous sommes dans le cœur du Saint-Père et que nous avons toute autorité avec pouvoir des clés du ciel et de la terre, du ciel dans la terre et de la terre dans le ciel sur eux, de notre autorité pour prendre avec eux et emporter avec eux dans l'union, dans la mission invisible des personnes divines, toutes ces personnes-là. Est-ce que vous connaissez bien, bon, j'ai pas envie, mais on peut très bien répéter toujours la même chose. Et Padre Pio, quand il a donné son testament, il a dit, voilà, mais c'est tout simple, vous savez. Les fils de Dieu sont tellement brûlés par... Il n'y a que Jésus qui vit en eux. Mais qu'ils se taisent, qu'ils soient délicats. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il a toujours été très délicat. Il pratiquait la direction spirituelle par commotion, en coupant la figure. C'est la commotion spirituelle, mais enfin quand même, soyez délicat. Bon, faites tout ce qui est possible, mais suscitez l'amour autour de vous, obéissez, vous voyez, au désir profond de saint pur. Cachez même à leurs propres yeux de ceux qui sont autour de vous. Voyez dans l'impassibilité de votre âme remplie de l'amour de Dieu, voyez à quel point la bonté attire. Dès que quelqu'un est rempli de la bonté de Dieu, dès que quelqu'un est rempli d'amour venant du ciel, il est attiré. Quand quelqu'un est méchant, on a envie de fuir. Quand quelqu'un est méchant, qui est coupé de Dieu, envie de fuir. parce que c'est Francesco qui m'a dit que la racine étymologique de méchant, c'est ce mais, c'est-à-dire mais, c'est la médisance, c'est ça, c'est le mal. La méchant, c'est celui qui est coupé de Dieu. La racine étymologique de méchant. T'es coupé de Dieu, du coup t'es méchant. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de toi. Mais si tu es bon, vous voyez la Sainte Vierge, elle est là. Elle est là, la Sainte Vierge. Vous l'avez déjà vue, je suppose. Oui. Eh bien, quand elle est là, mais physiquement, quoi, elle est là. Vous la voyez, oui, voilà. Elle vous attire. Vous n'avez pas envie de vous en aller. Regardez, Sainte Bernadette à Lourdes. Elle voit la Sainte Vierge. Elle n'a pas envie de s'enfuir. Vous rencontrerez Saint Jean, et quand il va disparaître, parce qu'il a fait son chemin, il est allé dans le cœur du Saint-Père, vous allez dire, oh, mais c'est pas possible, pourquoi je le suis ? Vous l'aimez. Vous rencontrerez, vous l'aimez tout de suite, quelqu'un qui est rempli d'amour, même s'il ne dit rien, et surtout s'il ne dit rien, vous l'aimez. Suscitez l'amour. Alors, s'il y a des milliers, des millions de gens qui vous aiment, même s'ils sont totalement athées, ils vous aiment. Ils aiment Jésus parce que vous êtes un membre vivant de la mission invisible de Jésus sur la terre. Pourquoi ? Parce que vous faites oraison, ce n'est pas une blague. Ils peuvent aussi aimer des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils peuvent très bien aimer Satya Sai Baba. Mais Satya Sai Baba, quand il part, ils sont bien avancés. Il est mort, Satya Sai Baba. Mais ceux qui ont aimé Satya Sai Baba... Mais s'ils ont aimé... Quelqu'un qui est Jésus sur la terre, je m'excuse, mais... Quand ils vont mourir, l'amour les amènera dans le cœur du Christ. Ils sont sauvés parce qu'en fait, ils ont aimé un membre vivant, Jésus vivant, dans la mission invisible des personnes vivantes. Donc, suscitez l'amour. N'ayez pas d'autres préoccupations que de susciter l'amour. Ne cherchez pas à faire qu'ils soient croyants, pas croyants, qu'ils soient ceci ou cela, qu'ils puissent se laver les dents tous les jours, pas se laver les dents tous les jours. D'accord, s'ils ne se lavent pas les dents, c'est mieux. D'accord, je vous le concède. On s'en fiche, c'est pas ça la question. Mais qu'ils vous aiment, ça c'est important. Il faut susciter l'amour. Si vous faites oraison tous les jours, mission invisible du Saint-Esprit dans votre âme, hein, une augmentation d'amour, forcément, ceux qui vont vous rencontrer vous aimeront. Ils seront attachés pendant 40 ans à votre cœur, uniquement à cause de ça, pour vous avoir vu une fois. Je vous assure que c'est vrai. Le jour où ils vont passer à la mort, c'est le seul amour qui va leur rester. Dans le chemin de lumière duquel ils vont pouvoir s'engolfer pour échapper au pouvoir de Lucifer qui avait tout pouvoir sur eux en raison de leur péché. C'est l'amour qui sort. Hors de l'Église, point de salut. À cause de l'amour. Ça, c'est le testament. J'aime beaucoup le testament de. Alors, vous pensez bien que nous prenons autorité. Nous prenons autorité sur les... Il y en a qui prennent, par exemple, autorité sur... Voilà, il regarde par exemple Le Seigneur des Anneaux, vous voyez ce film extraordinaire. C'est mieux que ils sont sortis à peu près en même temps, Harry Potter. Hein. Harry Potter, faites pas ça, parce qu'après, les gars qui ont fait toute la série des Harry Potter, ils en ont pour au moins 7 ans d'exorcisme, un minimum. Hein, avec des prêtres costauds. Hein. Bon, Et en même temps, c'est sorti en même temps que... C'est sorti en même temps que Le Seigneur des Anneaux. Hein? Qui avait quand même... Et Le Seigneur des Anneaux a fait quand même plus d'entrées qu'Harry Potter. Gloire à Dieu. Alléluia. Là, ils prennent Harry Potter. Pardon. Il y en a qui prennent comme ça Le Seigneur des Anneaux. Et puis, ils disent, ben oui, bien sûr. Regardez, à un moment, ils s'enfoncent dans cette grotte très profonde de... qui représente les temps passés. Et où l'enfer est maître. Et là, il y a les demeures de la mort. Et le roi, le petit roi fraternel qui est seul, rentre. Le roi de France, hein, le grand, le nouveau Saint-Joseph du 5e psaume de l'Apocalypse. Parce que c'est ça, hein, le roi du 5e psaume. Rentre là et il n'a pas peur de venir donner de l'amour à ces hommes qui sont morts et qui veulent que cette mort se communique. Vous l'avez vu ce passage du Seigneur des Anneaux, c'est admirable, c'est vraiment admirable. Il faut aller dans les bulles de Zeus, dans les bus de l'Olympe, dans les bulles de l'Olympe, où sont toutes ces myriades de gens qui ont préféré, au moment où Jésus est descendu dans les lieux de la mort, ils ont préféré rester dans ces bulles de la mort, procurant la mort, pour la destruction des racines de la vie. Alors du coup, ils ne sont pas rentrés ni au purgatoire, ni au ciel. Ils sont restés là. Bien sûr, avec le glaive, avec la rampe du nouvel Israël de Dieu, la Jérusalem spirituelle des nations au milieu des multitudes, avec la royauté sacerdotale joannique, on rentre chez eux, on les aime et on leur dit, mais voilà, ne vous inquiétez pas, on a besoin de vous, puisque vous donnez la mort, que ce soit donner la mort par amour, allez détruire et faire mourir tout ce qui est mal avec nous. Et on peut déraciner les champs morphogénétiques, vous voyez, de la pieuvre noire, hein, de Satan et de ses affidés. Comme ça, on prend autorité et on arrache. On appelle ça couper l'herbe sous le pied de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est génial. Donc ils font comme ça, c'est très efficace. Très efficace. D'ailleurs, vous verrez à fort et à mesure que vous allez vous habituer à prendre autorité sur les puissances du mal. Comme ça, voyez, de cette manière, je parle de manière surnaturelle, mystique, avec les missions invisibles des personnes divines. Attention, c'est pas imaginaire. Hein. C'est pas un film, hein. Attention. Non, non. Et c'est de l'amour qui est donné et une confiance. Et une coopération. Dans le travail de l'Église, il y a des choses quand même qui sont concrètes pour... On ne peut pas détruire le mal tout entier, on ne peut pas tirer sur l'ivraie, hein, l'heure de la moisson n'est pas arrivée. Hein. Vous ne tirez pas sur l'ivraie, parce que vous pourriez tirer sur le blé. Hein. Mais vous pouvez arracher ce qui empêche. Ce qui empêche complètement l'unité de se faire, ça oui. Pour traverser la mer Rouge à pied sec. Ça, vous pouvez prendre. On a pouvoir pour ça. C'est important, je crois, de dire ça aujourd'hui. Que la nuit, sur les puissances de ténèbres, nous avons toute autorité. Le roi d'Israël. Le fils de celui qui a pris toute autorité sur les puissances, qui empêchait à la Vierge d'engendrer Dieu dans la chair. Le roi d'Israël, Saint-Joseph, a enlevé tous les obstacles devant elle. C'est le ministère de Saint-Joseph, c'est le ministère du roi, c'est le ministère du roi d'Israël. Le nouvel Israël, c'est nous. C'est comme Saint-Joseph, nous avons la même autorité que lui. La guerre est déclarée Et donc nous avons la même autorité que lui. Nous avons une autorité royale. Sacerdotale. Du cinquième sceau, c'est-à-dire de l'accomplissement de Marie. De la mission invisible des personnes divines. Dans le cœur et la demeurance du Père. Avec le Saint-Père. Comme c'est facile. Comme c'est facile. Avec cette aisance extraordinaire d'un enfant qui s'enfonce dans le sein de sa mère, sans chercher des merveilles qui le dépassent, nous tenons notre âme égale et silencieuse, nous prenons autorité, nous décelons tout ça, nous posons dans la mission invisible du Saint-Esprit pour qu'il n'y ait que de l'amour pour remplacer dans le sang précieux. Et c'est fait. Et c'est fait. Cherchez pas midi à 14h, c'est fait. Mais il faut apprendre, prendre autorité, n'est-ce pas? Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et cette royauté, c'est une royauté d'amour. Donc elle est intériorisée, fabriquée avec la mission invisible du Saint-Esprit. Dans notre âme, cette mission invisible du Saint-Esprit établit l'attraction véhémente du Père vis-à-vis de toutes les présences salvatrices de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, dans le ciel d'en haut et dans les lieux d'en bas, dans la demeurance du Père qui est en nous, pour qu'il y ait précisément donc, cette pacifique union du Père et du Fils dans notre âme. Le Père demeure, le Fils est envoyé, et la lettre c'est nous, dans la puissance de la mission invisible du Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, le Christ, quand il se donne à nous, Jésus, Jésus immolé, Jésus, victime d'amour éternel, Jésus, prêtre de son propre sacrifice, Jésus, sponsalité d'amour parfaitement établie en nous, substantiellement, transsubstantiellement, transglorieusement, transactuellement. Peut s'enfoncer à travers nous parce que nous ne mettons aucun obstacle. Peut s'enfoncer à travers nous dans ce qui lui donne la paix. C'est-à-dire le sein du Père qui demeure. Mais si en nous il rencontre des pensées, si en nous il rencontre des nœuds, si en rencontre des tristesses, si en nous il rencontre des joies humaines inutiles, si en nous il rencontre, il ne peut pas traverser. Et parce qu'à cause de sa délicatesse, et donc il s'arrête là. Et du coup, l'œuvre de Dieu ne se fait pas dans la tempête qui va éclater. Cette tempête étonnante. La barque, les apôtres sont dedans. Tempête. Vous voyez ça. Quand vous allez sur le lac de Galilée, vous avez une tempête de lac, vous pouvez savoir ce qu'est une tempête de lac, vous pouvez, c'est facile, prenez un pot comme ça, un cran comme ça, hein, et vous bougez comme ça. Vous êtes capable de faire des vagues qui font en hauteur plus de la moitié du diamètre. C'est ça une tempête de lac. Vous voyez la Galilée? Il y a une tempête de lac. Et les apôtres étaient dans la barque. C'est beau ça pour savoir ce que c'est que l'oraison. Hein. Une tempête de lac. C'est pas drôle, hein, la tempête de lac. Il hurlait de peur. Et Jésus, lui, il dort, il s'enfonce dans le coussin. Et le coussin, vous voyez, c'est génial, je trouve ça. Je trouve ça absolument génial. Parce qu'au milieu de l'église mariée, donc Jésus s'enfonce dans la demeurance du Père, dans ce qui, dans l'Église de Jésus, vide la mission invisible du Saint-Esprit, dans la paix. Et il y trouve, il devient à ce moment-là paraclet. Et paraclet contre paraclet, dans un seul, dans l'unité des deux paraclets, l'émanation de la consolation Pour ça, je cherche des consolateurs. Je n'en ai pas trouvé. Il faut qu'il n'y ait aucun obstacle. Il faut qu'il n'y ait aucun obstacle, strictement aucun, entre Jésus qui nous est donné, mais c'est invisible du Verbe de Dieu, l'Église que nous recevons, qui s'enfonce en nous, comme dans le cœur du Saint-Père, le cœur de tous les hommes, et l'unité du ciel et de la terre, et l'unité du corps mystique de l'Église, l'unité joannique. Et le Père, aucun obstacle en nous. Et ça, c'est l'horizon qui permet qu'il n'y ait aucun obstacle. Si vous prenez des méditations dans la revue Études de la Compagnie, eh ben, vous pouvez lire ça pendant 3 heures par jour, ça ne vous donnera jamais, jamais de mission invisible. J'ai beaucoup d'amour pour la rue de Sèvres. Mais il faut dire la vérité. Si vous voulez convaincre par la parole, vous n'obtiendrez jamais l'amour de vos interlocuteurs pour le Christ. Vous aurez peut-être raison, mais cette manière de faire fait que vous avez tort. Parce que ce n'est pas la parole. C'est, comme dit Saint-Père Benoît, c'est le logos. De l'amour, du bel amour, de l'amour splendide, du bel amour éternel de Dieu. Le logos. Et là, ce logos permet d'unir les civilisations humaines dans une seule splendeur qui fait que l'humanité est tout à fait elle-même dans l'ouverture de ce qu'elle est devant Dieu. Ce qu'il a dit aux Bernardins devant les intellectuels de Paris. Mais vous pouvez répéter sans arrêt ce que vous avez lu dans les Écritures ou dans la doctrine, ou dans la scolastique décadente, hein, ou dans le Coran, ou n'importe quoi, alors à ce moment-là, vous détruisez l'homme, la culture et la beauté. C'est ça qu'elle dit. Nous ne sommes pas une civilisation de l'écriture et de sa répétition par la parole. Nous sommes une civilisation du logos. Là, en faisant ça, il a arraché dans le cœur de l'humanité tout entière, cette espèce d'admiration pour les dieux de l'Olympe. Parce que le logos, ça vient de là, mais il est descendu dans la déchéance de la parole. Le logos de l'Olympe. Je vous assure que quand il est passé au Bernardin à Paris, il a fait une opération chirurgicale définitive. Il y a d'autres discours comme ça qu'il faut absolument lire, si ça vous intéresse. C'est quand il est allé à Londres, ou en Allemagne, j'essaye. À Londres, je crois que c'est à Londres. Il a été dans la Chambre des représentants. Il a fait un discours à la Chambre des représentants à Londres. Et là, il a pris autorité. Il a déraciné le mal qui était en eux. Je sais que c'était pas comment. À Londres, la chambre des lords, ils interracinaient. Ils se sont levés en hurlant leur bonheur devant le Saint-Père. Libérés, ils étaient. Il faut lire pour le logos du Saint-Père pour voir comment il a pris autorité. C'est pas simplement un être silencieux, c'est un génie de l'amour et du déracinement du mal. On n'a pas le temps, je sais bien. On n'a pas le temps de tout lire. Mais au moins, il faut le savoir. Il faut savoir que que c'est le dernier pape des 111. Le dernier. Ça, je vous affirme, c'est le dernier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pape après, hein, mais c'est le dernier des 111. C'est normal puisque c'est le 111e. Saint-Michel Archange 111, hein, si vous voulez la signification symbolique de 111. Hein. Le clair. Eschatologie du combat, c'est lui. C'est bien. Avec le miracle des trois éléments, avec l'émission invisible du Seigneur, dans la communion avec le Saint-Père, dans le cœur immaculé de Marie, nous arrachons ce qui empêche cette démarche toute simple, toute simple, toute simple, qui va arracher les trucs d'une bêtise, mais d'une bêtise qui empêche l'unité de l'Église apostolique. Tous les successeurs des apôtres, vous entendez? Qui sont déchirés depuis 1000 ans. C'est inouï. Il a été en Allemagne. Les protestants ont dit, ben, il a été sur la tombe de Luther. Bon, on lui a demandé de canoniser Luther. Il a dit, vous savez, difficile. On lui a demandé de dire, quand même, reconnaissez quand même que, est-ce que vous pouvez dire quand même qu'il y a une bénédiction de Dieu sur l'Église de Luther, sur l'église luthérienne, sur l'église protestante, sur la protestante. C'est l'œcuménisme, vous êtes un champion, mon amour, de l'église une, de l'unification de l'église, de, qui est un seul corps mystique de Jésus, tous les croyants des baptistes de la terre. Et sur la tombe de Luther, il a fait un discours en disant ceux qui forment le temple à partir de la foi dans le Christ qui justifie à partir de l'Écriture, forme un temple, mais il ne forme pas l'Église. Pour former l'Église, il faut des membres vivants du corps mystique apostolique du Seigneur. De sorte que, par exemple, il a dit, c'est un homme de Luther, il a dit devant les protestants, il a dit, de sorte que, par exemple, les orthodoxes, eux, c'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils vivent. Ils sont les successeurs des apôtres. Et ils vivent de l'Eucharistie, du dépôt. Mais c'est vrai que les protestants ne sont plus du tout dans la succession apostolique. Ils sont arrachés hors de la succession apostolique. Donc il n'y a pas d'Église. Vous mettez 500 millions, ils ne sont pas 500 millions. De protestants à supposer qu'ils fassent une seule église. En fait, je crois qu'il y a 427 églises protestantes différentes. Ils font des temples. C'est comme les dieux de l'Olympe. Il a dit en toute simplicité, à sa manière à lui. Il est allemand, donc il savait dire ça. Et les orthodoxes ont écouté ça. La voix de papa, je te... C'est un bon pape. Ça qu'on fait aujourd'hui, hein, Cyril. Il faut rentrer dans le cœur de Saint-Père. Savoir ça, et je vous donne quelques petits éléments, mais c'est bouleversant de voir cette, les puissances pour se déchaîner contre lui, hein. Pour l'empêcher. Mais elles ne pourront en rien, vous savez pourquoi? Parce que nous, on va prendre autorité sur tout ce qui l'empêche d'avancer dans les 9 mois en question. Sur la montagne des prophètes, la montagne d'Élie, et la montagne du retour d'Élie le prophète. Lorsque nous sommes descendus, la Vierge nous a bien précisé que l'ouverture du 5e sceau de l'Apocalypse se ferait grâce au Saint-Père, à cause de cette unité. Vous voyez, donc de juillet à mars, hein, là, vous voyez, regardez, on a 5 mois pour rentrer dans la 5e demeure. Et pendant 9 mois, on écarte les obstacles. Ils pourront faire tout ce qu'ils voudront. Ils ne pourront rien contre cela. parce que nous, nous savons que cela se fera. Nous avons donc tout pouvoir pour écarter la troisième guerre mondiale. Et que cette troisième guerre mondiale soit une guerre eschatologique d'amour du Père. Et que ce qui va anticiper la destruction totale du nouveau Carthage, c'est l'ouverture du seul Apocalypse. Et ça, c'est sous l'autorité royale du nouvel Israël de Dieu sur la terre. Combien sont-ils ces soldats de Gédéon? Combien sont-ils ces soldats de Gédéon?
300.
Non, ça c'est des thermopiles, ça. Des thermopiles, ça. C'est des spartiates.
Ils
étaient 314. Les spartiates, c'est aux thermopiles, ils étaient 314.
Mais je te parle des soldats de Gédéon. À l'Armageddon. Oh, Armageddon. Contre les Philistins. Combien sont-ils ces soldats de Gédéon, hein? Dans la cuve de vin, changer en vin, au fond de la cuve. Ce vin se transforme en flamme. Et leurs armes, c'est extraordinaire, soldats de Gédéon. Une cruche. Et du feu caché dedans. Et puis, les trompettes de l'Apocalypse. 300. Au jour de l'Armageddon, vous savez ce qu'il a dit, ce que Bush, fils, a dit à Jacques Chirac, lorsqu'ils se sont rencontrés. Il a dit, nous allons faire d'ici 15 ans, nous allons préparer Armageddon. Alors Chirac a écouté, c'est un anglais. En anglais, il y avait le traducteur. Alors Chirac, c'était le traducteur. Vous savez, vous, ce que c'est que l'Armageddon?
C'est dans l'Apocalypse.
C'est dans toute la Bible, l'Armageddon. Vous pouvez lire, ça dans l'Apocalypse, bien sûr. Ce qu'on appelle Armageddon dans le langage de la pieuvre noire, c'est la troisième guerre mondiale. 300 suffisent. 300 qui sont dans les trompettes de l'Apocalypse, c'est-à-dire dans l'autorité sur le temps. 300, ça suffit. La cruche, l'oraison, hein. Les cruches sont vides, n'est-ce pas, qui sont remplies d'eau. Changées en vin, et dans la cruche de Gédéon, ça s'enflamme. Vous verrez bien. Lisez dans le livre des rois. Lisez le livre des rois, Gédéon, c'est génial. Et quand la trompette sonne, paf, les cruches explosent et tous les affidés de la guerre eschatologique cherchant, étant pratiquement sûrs de leur omniprésence, puisqu'il n'y a plus personne d'autre qu'eux, croient qu'ils sont attaqués et se tuent tous les uns les autres. Il n'en reste plus un seul. Ils tombent même dans le trou qu'ils ont fait. Pas besoin de vous entraîner à la guerre. Il faut prendre juste simplement la cruche. Savoir entendre l'oreille. Savoir entendre la trompette. C'est l'heure. C'est maintenant. Et du coup, vous avez toute autorité avec l'arme suprême de destruction du mal, qui est, comme vous le devinez, l'arme pneumatotronique surnaturelle des enfants de Dieu. Celle qui... L'arme pneumatotronique, ça me plaît beaucoup, ça. Hein? La pneumatosurnaturelle, l'arme pneumatotronique surnaturelle. C'est celle qui va détruire tous les champs psychotroniques de la pieuvre noire, hein, de l'antichrist. L'arme pneumatotronique, surnaturelle, tachyonique, vous voyez, de l'amour primordial et du dépôt qui est en nous et qui nous donne toute autorité. Les rois sont au-dessus des princes. Les princes de l'enfer ne sont rien face à un enfant de Dieu. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'après l'ouverture du cinquième psaume de l'Apocalypse, dans quelques semaines, après l'ouverture du cinquième psaume de l'Apocalypse, si il y en a quelques-uns d'entre eux qui restent, cette fois-ci, ils le sauront, un enfant de Dieu est au-dessus des princes. Alors là, c'est pas pareil. Ce sera un autre, ce sera une autre, ce sera une autre transformation d'amour qui sera donnée à la terre, hein, avec les deux témoins de l'Apocalypse, avec le soin d'Élie le prophète, les deux témoins qui se tiennent devant la Ménorah, de l'ouverture du ciel à la terre. Et qui vont produire le flux, le reflux libre, visible, sensible, la Jérusalem céleste dans la Jérusalem spirituelle de la terre, pour produire cette fois-ci non pas l'unité de la succession apostolique johannique, hein, n'est-ce pas, mais l'unité johannique du ciel et de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem spirituelle. Et ceci avec une efficacité prodigieuse sur l'avènement du corps spirituel venu d'en haut. Hein. Le règne du Sacré-Cœur va se répandre partout. À partir du nouvel Israël, de Dieu. Et croyez bien que ça ne se fera pas à partir de Jérusalem au Moyen-Orient. Vous êtes sûr que non. À partir du nouvel Israël de Dieu. Ouais. À partir de la Jérusalem spirituelle de Marie au milieu des multitudes. Ça oui. Alors, on va célébrer cette messe en sachant que si nous la célébrons comme tous les soirs, sachez-le bien, hein, que depuis le 8 mars 2005, depuis l'installation du méchaume sur l'humanité, c'est-à-dire ce nouvel renversement des lois naturelles et métaphysiques, chaque soir, à 18h, la messe est célébrée pour saisir, prendre autorité sur tout le million de messes qui sont dites par ailleurs sur la terre, celle du Saint-Père, pour détruire tout ce qui, dans l'opacité invincible du méchant, empêche les saints de la terre, du nouvel Israël de Dieu, de traverser l'opacité invincible du méchant pour entrer dans la cinquième demeure. Tous les jours, c'est le Saint-Père qui l'a demandé. Et donc, nous y sommes fidèles. Je sais très bien qu'on n'est pas nombreux comme prêtres à faire ça. Deux, peut-être trois. Mais ça fait rien. Du moment que les autres prêtres célèbrent, nous avons, prenant autorité sur l'unité féconde du Saint-Père, de tous les évêques, tous les évêques du ciel et de la terre, et tout ce sacrifice, cet holocauste brûlant d'amour, et nous l'enfonçons dans le Père pour que tous ces obstacles, tout ce qui rend invincible l'opacité incontournable du méchant soit laisse un tout petit espace de rien du tout pour que nous puissions aller traverser, voyez, comme les enfants de la mer rouge et aller au-dessus. Il faut briser l'opacité invincible du méchant. Ça, je vous assure que depuis que le Sikutsi Meshomem s'est établi sur la terre, dans notre humanité à cause de nous. Hein. Cette prise d'autorité, eucharistique, Johannie, Maria, Pontificat, de la royauté, dans le Saint des Saints, réservé à Dieu seul, est absolument nécessaire. Et puis, de manière à l'intérieur de cette prise d'autorité, nous pouvons prendre autorité sur toutes les autres obstacles, opacité, surdité, aveuglement, cryogénisation, des paralysies qui nous empêchent d'aller vers l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Et je crois que si on célèbre ensemble la messe ce soir, pour ça, je crois qu'on peut prendre autorité chacun d'entre nous sur nous-mêmes, sur tout ce qui nous empêche de prendre autorité dans ce sacerdoce royal des temps d'aujourd'hui, de l'ouverture de tous les temps. C'est l'intention, hein. Et le Verbe de Dieu, le Christ, assume notre intention comme au noce de Cana il a assumé. Nous disons, ils n'ont plus de vin. Où est la grâce? Cherchez bien, ils n'ont plus de vin. Le vin s'est épuisé. En disant cela, nous mettons ça dans le Christ, en nous mettant en disponibilité surnaturelle, divine, d'enfance, dans le sein de l'Église céleste, dans l'Église de la terre, dans le cœur de Marie, et dans la présence de demeurance de la première personne de la très sainte Trinité, la seule personne qui n'est jamais envoyée. Donc les trois ensemble, à ce moment-là, oui, Jésus assume. Jésus assume cette foi mariale qui est là-bas, cette foi immaculée de la Jérusalem spirituelle, de Marie au milieu des multitudes. Et il fera le miracle. Et tous les hommes de bonne volonté, l'eau, sera changé en vin au jour de l'avertissement. C'est sous notre autorité, ça. Ça ne dépend pas des saints Padre Pio ou je ne sais pas quoi. Non, non. Ils sont avec nous. Ils nous aident. Ils sont présents. Ils prient pour nous. Mais c'est à nous de faire cet acte de foi, d'espérance et d'amour. Donc nous célébrons la messe ce soir, je crois que c'est pour que nous puissions prendre autorité sur nous-mêmes, pour arracher de nous ce qui nous empêcherait de faire ça en toute simplicité. Et ce serait bien présomptueux de dire je ne suis pas à la hauteur. Parce que si c'est la volonté de Dieu, la présomption, c'est de fuir l'obéissance au Saint-Esprit. D'aller au-devant de cet amour, cet appel du Saint-Esprit, cette attraction véhémente du Père pour l'ouverture des temps. C'est présomptueux de se mettre au-dessus de Dieu. En disant, je préfère faire mon truc. À ma manière. Et anathème à ceux qui ne me comprennent pas, qui ne me reconnaissent pas. Attention, humilité, donc absence de murmure, douceur, délicatesse, transformation, en autorité sur nous-mêmes, et que le bon Dieu serve de nous. Dans le cœur de Jésus, Marie, Joseph, de la Jérusalem céleste glorieuse, dans la terre spirituelle de notre horizon. Nous voici, et nous sommes purifiés de tout ce qui nous empêche de faire cet acte d'autorité. Nous sommes disponibles. Et nous sommes purifiés par l'esprit de crainte de tout ce qui nous empêche de faire cet acte d'autorité royale. Et le feu qui brûle de la Jérusalem céleste dans la Jérusalem du Saint-Père, en nous, dans la demeure du Père, brûle tout, jusqu'à ce que nous soyons dans cette disponibilité totale, où Dieu, le Père, nous voyons enfoncer, s'enfoncer avec toute la présence de Jésus vivant et entier en lui, va pouvoir assumer la nature humaine tout entière dans la cinquième demeure. C'est donc extrêmement facile.